Salam alaikum, my sweet sister. Bienvenue dans A Cup of the Morning, le podcast des femmes musulmanes qui aspirent à une vie épanouie ici-bas et dans l'au-delà. Moi, c'est Kounadi, la fondatrice de Budget Éthique Femmes, où nous accompagnons et conseillons des sweet sisters dans la gestion de leurs finances personnelles ou professionnelles en respectant l'éthique musulmane et en tenant compte de leurs aspirations profondes. Ici, nous sommes entre nous et aujourd'hui, nous allons terminer le sujet qui a été entamé le mois dernier, à savoir les relations toxiques. Il s'agit d'un thème tellement complexe et délicat qu'avec notre invitée Majda, nous avons préféré le faire en deux parties afin de te donner le plus d'informations possible. Je t'invite donc, si ce n'est pas encore fait, à écouter l'épisode précédent avant celui-ci. Lors du premier épisode, notre sister Majda nous avait permis de faire la différence entre une personne toxique et une personne incompatible avec nous, de voir les différents types de violences qu'on peut subir lors d'une relation toxique, et puis nous sommes bien rentrés en détail sur les violences dites économiques ou financières. Bah oui, puisque l'argent, ça fait partie de notre credo. Je te laisse donc découvrir la suite maintenant. Et pour ça, installe-toi confortablement avec une tasse de thé ou de café, un bon morceau de gâteau et continue à prendre note de notre échange. Merci pour toutes ces réponses que tu nous as données, toutes ces explications, machallah. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour une personne qui est justement, qui se retrouve dans une relation toxique? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour mieux le vivre ou pour pouvoir surtout en sortir? Parce que c'est vraiment ce qu'on veut quand on est dans une relation toxique, en tout cas quand on en a pris conscience.
Alors, je voulais juste parler rapidement des personnes qui sont dans une relation toxique et qui ne peuvent pas tout de suite quitter la relation, parce que ces personnes-là existent. Il ne faut pas aussi les oublier, parce que quand tu vas parler de s'en sortir, il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont se sentir mises à l'écart, puisqu'elles ne peuvent pas vraiment couper les pans. Donc, si tu me permets, est-ce que je pourrais juste...
Oui, très bien, ouais.
Par rapport à ça. Comme je t'ai dit, il y a des relations que tu ne pourras peut-être pas quitter, comme les relations familiales, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est pénible des fois, mais bon, généralement, vous n'êtes pas les seuls à vivre ces relations toxiques. Donc, alhamdoulilah, il y a toujours des expériences et il y a des gens qui peuvent vous donner, bien sûr, des gens qui sont passés par là et qui nous ont donné de très, très bons retours par rapport à ça. Donc, c'est des petites techniques, si vous voulez. Quand vous êtes dans une relation toxique et que financièrement, je ne sais pas, d'autres facteurs, les enfants, peu importe, vous ne pouvez pas couper tout de suite, en tout cas, cette relation. Alors, très important, c'est de vous documenter. En fait, pour les deux cas de figure, si cette personne veut s'en sortir ou ne pas s'en sortir, si tu veux, dans les deux situations, on dit toujours la première étape, c'est la prise de conscience. Et en fait, c'est mon travail, c'est vraiment de solliciter cette prise de conscience chez les femmes surtout qui sont dans des relations toxiques. Parce qu'on sait que dès que la femme prend conscience que finalement c'est un cycle, comme je t'ai dit, que finalement la personne toxique, qu'elle soit les parents ou bien le conjoint, surtout si c'est le conjoint, ne l'a finalement jamais aimé, que tout était, si tu veux, planifié, etc., calculé, ça va l'aider déjà à prendre conscience et à se dire, OK, peut-être qu'il y a quelque chose, matière à faire, tu vois, pour un peu shifter ma réflexion. Donc, on travaille beaucoup sur la prise de conscience parce que tout se passe sur le cerveau. On sait aussi que le lien traumatique change la chimie du cerveau. Comme je t'ai dit la dernière fois, c'est exactement l'effet de l'addiction. La prise de conscience, elle va aider un peu à dire stop un peu et structurer un peu sa pensée. Et c'est ce que nous voulons. Aussi, les personnes qui sont dans des relations toxiques et qui ne peuvent pas quitter, apprenez à gérer vos attentes dans cette relation. Cette relation est ponctuée par des moments doux et des moments de joie, pour ne pas dire heureux, ok, mais c'est des moments qui sont courts dans le temps et qui ne sont pas vrais. Apprenez que dans cette relation, vous ne serez jamais épanoui. Et que s'il y a un moment de bonheur, prenez-le comme un petit moment de répit, mais ne le prenez pas comme une fin en soi. Ne le prenez surtout pas pour un début de changement. Donc, apprendre à gérer les attentes par rapport à l'autre, c'est-à-dire ne plus se projeter dans la relation, c'est déjà un début. Apprenez que vous n'arriverez jamais aussi à changer cette personne. C'est très important. Cette personne ne va jamais changer parce qu'il va avoir des enfants, parce qu'il va s'assagir en vieillissant ou bien il aura un autre boulot, etc. Aussi, vous devez faire la part des choses entre la situation et vous-même. Quand vous êtes dans la relation toxique, apprenez que quand il y a par exemple une dispute, ce n'est pas vous qui l'avez déclenchée, que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, mais plutôt que ça fait tout simplement, comme je t'ai dit, partie du cycle de la relation toxique. Donc, se dissocier dans cette relation, c'est très important. Je donne par exemple l'exemple d'une certaine Amina, OK? Amina, elle est dans cette relation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de jongler pour suivre à peu près les règles, etc. En même temps, Amina, elle va prendre soin d'elle. Il faut à tout prix créer des moments pour soi, se déconnecter de cette relation. Je sais que c'est un peu difficile, mais quand vous êtes dans une relation toxique, la première des choses, c'est ce qu'il va faire, c'est vraiment recentrer toute la relation autour de lui ou elle. Hein, okay? Donc, vous allez vous délaisser. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment d'aller vers vous-même. La flèche va se tourner vers vous-même. C'est très important. Donc, de créer des moments pour vous, des moments spirituels, des moments d'introspection. Vous pouvez le faire vous-même ou si vous ne pouvez pas avec des thérapeutes ou avec des coachs, peu importe. En tout cas, faites-le en cachette parce que la personne toxique, quand elle apprend que vous êtes dans le processus de cheminement vers vous-même, c'est une menace pour lui ou pour elle. Donc, il ne va pas vous lâcher, si vous voulez. Et il va vouloir demander à ce qu'il y ait une thérapie de couple pour le conjoint. Il va demander à rencontrer votre thérapeute. J'ai vu quelqu'un la dernière fois qui a dit qu'elle était allée avec son père en thérapie. Son père a demandé qu'il assiste à la thérapie qu'elle suivait parce qu'elle a eu l'erreur de lui dire que tu es en train de me gaslighter. Et donc, elle est allée faire la thérapie avec elle. Et elle s'est dit qu'elle s'est retrouvée pendant une heure en train de justifier à son père et de s'excuser à son père parce qu'elle a utilisé le mot « gaslighter ». Le père a même ramené un dictionnaire pour lui dire « mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi, je n'ai jamais dit ça, mais tu es folle » devant le thérapeute. Donc, ça lui a bousillé complètement l'envie d'aller chez un thérapeute. C'est pour ça que je ne préconise jamais les thérapies de couple avec une personne toxique. Commencez toujours par une thérapie individuelle. Quand vous allez connaître vraiment, vous allez vous situer par rapport à votre situation, par exemple vos rôles dans la relation, les responsabilités, etc. Après, vous allez décider de vous en sortir. Mais ne prenez jamais votre époux, votre famille, votre frère et sœur dans des thérapies en croyant que vous allez encore une fois le changer.
Mais du coup, est-ce que ça voudrait dire que ces personnes toxiques acceptent facilement de faire partie d'une thérapie, d'aller vers la thérapie?
Ben, c'est une très bonne question. En fait, la personne toxique, c'est des caméléons. C'est des personnes qui s'adaptent très bien. Le but, c'est de maintenir un contrôle sur vous. Donc, si toi, par exemple, tu es soumise, ben, il fait ce qu'il veut. Si, par exemple, tu commences à te rébeller, et que tu, par exemple, on parle de couple encore une fois, si par exemple tu décides de lui dire « Ok, pour moi, j'aime pas ce qui se passe, je ne me sens pas bien, etc., je vais te quitter », en exemple, ok? Lui, ce qu'il va faire « Oh, mais je vais changer, je te jure, je vais changer, on peut suivre une thérapie ensemble ». Ou bien, tu sais quoi, tu as raison, je suis violent, je ne te traite pas bien, etc. Je schématise, hein, c'est pas qu'il va dire ces mots, je schématise. Je te traite pas bien, etc., je te promets, je vais suivre une thérapie. Tu vas lui dire « Ok, mais je voudrais voir si tu suis vraiment une thérapie. » Eh bien, il va aller en thérapie. Lindy Bancroft, c'est un spécialiste qui travaille avec les hommes. C'est un médiateur qui a travaillé longtemps avec les hommes abuseurs. Il dit que tous les hommes qui sont venus chez lui, c'était des hommes qui étaient contraints par la justice, pour le droit de garde, des enfants, pour la pension alimentaire, etc. Ce n'était jamais des hommes. Il travaille avec les hommes. Hein. Je ne dis pas que l'abuseur, c'est que des hommes. Mais il travaille avec des hommes. Il a dit « Je n'ai jamais vu d'hommes venir » par le simple fait qu'il a pris conscience de ça. Et ça, on pourrait en parler si tu veux, de la prise de conscience du changement. Il ne faut pas se dire que parce qu'il est allé en thérapie, et je peux te dire qu'il y a beaucoup de femmes qui reviennent parce que même après s'être séparée de l'homme abusif, et même après le divorce, et même quand elle commence à faire un travail sur elle-même et qu'elle se lance, par exemple, dans un nouveau projet, qu'elle se sent épanouie de nouveau, et c'est là... l'ironie de l'histoire, c'est que quand tu vas te sentir mieux, c'est là où il va revenir dans ta vie. C'est des personnes qui contrôlent les Instagram, etc., pour voir s'il voit que tu commences à être épanoui, c'est là où il va rentrer dans la période d'aspiration et te dire oui, tu me manques et je ne peux pas vivre sans toi, etc. Et je te promets, on va refaire notre famille comme avant, et je vais aller en thérapie, etc. Et toi, tu vas aller avec lui en thérapie, tu vas le laisser et il va te faire un petit scénario de oui, l'homme tout gentil, etc. Jusqu'au jour où il t'aspire, c'est pour ça qu'on appelle l'aspiration. Et hop, le cycle revient, love bombing, dévalorisation et rejet, etc. Donc, je préconise à tout le monde, à toutes celles qui me posent cette question, si vous voulez faire une thérapie, c'est très bien, faites-le seul, toujours seul. Donc voilà, je reviens rapidement donc, aux femmes qui sont dans les relations, qui ne peuvent pas sortir de cette relation tout de suite. Aussi, prenez conscience que la personne toxique avec laquelle vous êtes, je parle du contexte conjugal, elle ne va rien vous rapporter de bon. C'est très important. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de défaire les croyances que les victimes ont. Donc, c'est très important. Si, par exemple, vous avez des enfants avec cette personne, sachez qu'il faut être le parent stable pour vos enfants. Il faut être le point de repère pour eux. Si la personne toxique est constamment dans les insultes et la terreur avec eux, vous devez être la source douce, aimante, la partie apaisée pour vos enfants. Aussi, il est très important d'apprendre à mettre des limites. Je le dis chaque fois, mettre des limites dans les relations toxiques, c'est compliqué quand vous êtes dans la relation, mais il faut agir avec intelligence et sagesse afin d'évaluer ce que vous pouvez tolérer, ce qui vous fait du mal. Je donne l'exemple encore une fois de la relation familiale, puisque vous ne pouvez pas couper les ponts des fois. Puisque le no contact définitif n'est pas envisagé ou envisageable, vous avez l'opportunité de contrôler la fréquence de vos interactions. Et c'est totalement permis en islam. Il faut demander à des personnes qui savent ce que c'est que le Hajar al-Jamil, c'est vraiment permis en islam de contrôler la fréquence de vos interactions. Si vous vivez loin physiquement de votre famille toxique, vous pouvez choisir des moments de visite précis que vous allez garder tout au long. Et pendant ces moments, vous devez prendre sur vous pour ne pas vous engager dans les disputes ou dans les provocations. Vous avez des personnes, une mère toxique par exemple, le fils, la femme et les enfants vont décider de lui rendre visite pendant les occasions uniquement. Ça va pas être tous les jours, c'est pas possible. Pour le fils, ça va pas être possible parce que chaque fois qu'il va aller chez sa mère, ça va être, je parle pas d'insultes, mais ça va être, il va rentrer en fait dans le cycle abusif. Et on a vu beaucoup de personnes comme ça, surtout quand c'est des parents, c'est des musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent vraiment dans le cycle, ils se rebellent à un certain moment contre les parents. Les parents utilisent ça. Et des fois, ils vont faire appel à des imams, à des voisins, à la famille. Regarde ce qu'il m'a fait, regarde c'est sa femme qui a fait ça, regarde c'est son mari qui a fait ça, etc. Ça devient un très gros problème et il va être obligé d'aller vers le no-contact, c'est-à-dire de couper les ponts définitivement avec ses parents. Ce qui n'est pas vraiment très intelligent, excusez-moi du terme, mais ce n'est pas ce qu'on veut. En fait, la personne toxique veut asseoir le contrôle. Ce que vous allez faire, c'est peu à peu reprendre le contrôle en ce qui vous concerne. C'est tout. Donc, il faut vraiment agir et essayer de jauger dans cette relation quand est-ce que vous pouvez faire ça, quand est-ce que vous pouvez dire ça. Vous n'oubliez pas que dans la relation toxique, vous marchez sur des œufs. Donc, il faut toujours être la personne responsable des deux. Voilà. Aussi, c'est très important de ne pas s'emporter face aux insultes ou aux moqueries. Essayez de penser à autre chose, je sais pas, mettez-vous en pilote automatique. Mais eux, quand ils vont voir que vous êtes devant un mur, ils vont chercher un autre souffre-douleur. Il faut surtout pas s'engager dans les provocations. Donc, il y a d'autres conseils, mais je vais aller rapidement vers ta question. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour s'en sortir? Je reviens à la prise de conscience, elle est primordiale. N'attendez pas de vous séparer pour prendre conscience. Vous pouvez toujours être dans la relation et prendre conscience. Ce qu'on fait dans l'organisme, dans tous les organismes en fait d'aide aux femmes victimes de violences domestiques, c'est toujours de préparer un plan de sortie et on les aide à le préparer. Ça dépend de qui est la femme, s'il s'agit d'une relation conjugale, il ne faut jamais prendre ses clics et ses claques du jour au lendemain et partir. C'est une très, très mauvaise idée. Ne jamais faire ça, parce que ça va être utilisé contre vous. Au contraire, il faut être intelligent et agir avec beaucoup de sagesse, encore une fois. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous préparer. Préparer le terrain pour ça. Ne jamais montrer à la personne toxique ce que vous faites en ce moment, avec qui vous discutez, etc. Prendre conscience déjà, connaître la personne toxique. C'est exactement comme le boxeur, avant de rentrer dans le ring, il s'entraîne et il a des informations sur son futur adversaire. Donc, il sait par exemple ses points de faiblesse, il sait connaître l'adversaire. Parce que surtout s'il y a des enfants impliqués, le divorce va être très houleux, si tu veux. Donc, il faut se préparer à tout. Ce que je leur dis, moi, c'est de documenter avant de sortir de la relation toxique. C'est pour ça, d'où l'importance de tenir un journal. C'est de se documenter, de noter tout ce qui, les petites scènes, les scènes de colère, de dispute, etc. Moi, ce que je leur dis de faire, c'est vraiment de mettre date et heure. Il a commencé à dire ça, ça, ça. Il a fait ça, il a cassé ça. Et qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Alors, premièrement, documenter va vous aider après pour la justice si vous êtes dans le divorce. Deuxièmement, est très important pour moi, il va vous aider après avoir quitté la relation toxique à rompre le lien toxique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de victimes qui reviennent vers l'abuseur. Pourquoi? Parce que quand tu es, si tu veux, quand tu sors de la relation après quelques mois, quelques personnes qui m'ont dit des années, 2 années, mais pas beaucoup, c'était rare. Mais en tout cas, au début, après des mois, il va y avoir le syndrome de. Tu vois, comme quand tu arrêtes pour les addicts, la drogue. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, puisqu'elles n'ont pas documenté tout ça, le cerveau va automatiquement. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est nous protéger. En fait, ce qu'il va faire, c'est juste, c'est pas, vous l'avez le souvenir, mais il va le mettre dans l'inconscient, tous les traumatismes, et il va catégoriser parmi toutes les scènes, tout ce qui s'est passé, il va vous mettre que les bons moments que vous avez vécus. Et Dieu sait que les bons moments et les moments doux que vous allez vivre dans une relation toxique, surtout si elle est conjugale, ils sont vraiment des très très bons moments. C'est-à-dire, vous allez remarquer la différence si vous vous mettez après avec quelqu'un de normal, entre guillemets, bien que j'utilise pas trop ce mot, mais avec quelqu'un de sain, que l'intensité, elle va être. Vous n'allez pas vous ennuyer. Comprenez? Avec la personne toxique, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous n'allez pas connaître l'ennui, ni dans le bon moment, ni dans le mauvais moment. Il y aura toujours, c'est comme la montagne russe. Voilà. Donc, documenter va vous permettre de restructurer votre schéma de pensée. Donc, vous allez vous concentrer sur la réalité de la relation. Par exemple, je me rappelle qu'au début, je donne un exemple, il m'avait offert ça et sans lui, j'aurais jamais ouvert ma boutique, par exemple, parce que c'est possible, hein. Sans lui, j'aurais jamais ouvert ma boutique. Ah, oh, il me manque, vraiment, c'était lui qui m'écoutait, etc. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon petit journal. Telle date, il a fait ça, il m'a dit ça, il m'a pris par les cheveux, il m'a insulté, il m'a blessé, il m'a. Tu comprends? Je schématise encore une fois. Mais le fait de. Parce que tu m'as dit qu'est-ce qu'elles peuvent faire seules. Donc, je te donne ce que vous pouvez faire seules. Le fait de documenter, d'écrire et d'écrire à côté ce que vous avez ressenti va vous aider à vraiment restructurer le schéma de pensée et va vous remettre les pieds sur terre, si vous voulez.
Les pieds sur terre, c'est ça permet de se rappeler le pourquoi du fait d'avoir quitté la personne, en fait.
Voilà. Et merci beaucoup pour le mot, parce que ça, je vais l'utiliser pour ma transition. Le pourquoi. Le fameux pourquoi. En fait, il y a un exercice que je fais qui est très, très intéressant. C'est vraiment de chercher le pourquoi. On sait que la femme qui part, qui ne revient pas, tu te rappelles, on avait parlé de, en moyenne, les femmes ne quittent pas la relation toxique qu'au bout de la 7e fois. Je dis bien en moyenne. Alors, qu'est-ce qui fait que au bout de la 7e fois, elle est partie? C'est parce que elle a eu conscience de son pourquoi fort, si tu veux, ce qu'on appelle le strong why. Et là, c'est très, très important, parce que ce pourquoi, c'est celui qui va vous aider à garder le cap, même quand vous allez avoir des symptômes de manque. Pourquoi il diffère? Chaque personne va avoir un pourquoi différent. J'en ai eu de toutes les couleurs. Généralement, les mamans, le pourquoi, c'est les enfants. Mais pas général. Il y a beaucoup de femmes qui restent dans des relations toxiques.
À cause des enfants, non? Il y en a, ils vont se dire, je ne peux pas partir parce que les enfants ont besoin des deux parents. Moi, j'entends souvent ça, des gens qui ne sont pas bien dans une relation qui est des fois toxique, mais qui prennent les enfants comme excuse pour ne pas partir.
Alors, je vais te dire aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose. Ceux qui disent ça, c'est carrément un des symptômes du lien traumatique, c'est un mensonge. C'est un mensonge pour elle-même et c'est un mensonge pour les autres. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une relation toxique. Elle sait ce qui se passe. Elle voit que les enfants regardent. Elle sait que c'est mauvais. Mais elle n'arrive pas à quitter la relation. Il y a des femmes qui restent parce qu'elles se disent, je ne sais pas si je vais pouvoir gérer les enfants toutes seules. Je ne sais pas si j'ai la capacité de travailler. Je n'ai jamais travaillé. Tu vois? C'est des choses qui arrivent. Hein. Je ne suis pas dans le jugement du tout, au contraire. Je suis dans l'accompagnement. Mais quand tu te dis, je suis restée pour les enfants, elle sait que la société, surtout la société musulmane, va t'accrocher des lauriers si tu dis ça, tu vois. Donc, elle sait que elle se donne comme elle se donne une raison, mais elle sait que c'est faux. Elle le sait au fond d'elle, la femme qui est dans une relation toxique, crois-moi, elle le sait. Elle sait que ce qu'elle fait est mal, elle sait que les enfants vont, c'est des répercussions qu'ils vont avoir sur les enfants. Mais, par exemple, j'ai des femmes qui sont restées avec des personnes toxiques, avec des enfants. Mais quand elles ont découvert la tromperie du conjoint toxique, elles ont quitté.
Oui, donc ouais, c'est parce qu'il y a des choses qui passent pas, il
Parce
y a des
que,
déclics.
exactement, ça a touché quand ça te touche au plus profond. Par exemple, il y a des femmes qui ont l'instinct de survie. C'est-à-dire, si elle est frappée au bout de la première fois, elle quitte. Pour elle, c'est pas possible. Il y a des femmes qui ont l'instinct maternel qui est décuplé. C'est surtout les femmes qui sont surprotectrices par rapport à leurs enfants. Alors là, c'est des femmes qui te disent non, mes enfants, c'est ma limite. Donc chacune d'entre nous, si tu veux, a une limite au fond d'elle. Une femme qui a été maltraitée pendant son enfance, qui n'a pas un lien, qui n'a pas pu tisser le lien maternel naturel dû aux relations répétitives toxiques et dû au traumatisme lié à l'enfance. C'est une femme qui ne va pas pouvoir considérer les enfants comme un pourquoi. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est vraiment de travailler sur le pourquoi. Et on cherche le pourquoi ensemble, en fait. On va faire un schéma de sa vie. Quel est ton pourquoi? Et ce pourquoi-là, c'est celui qui va te faire tenir jusqu'au bout. Et tu vas l'écrire, bien sûr. C'est des exercices. Tu vas écrire le pourquoi. Et pourquoi ce pourquoi? Et pourquoi on le fait jusqu'à 7 fois, jusqu'à ce qu'elle sache vraiment qu'est-ce qui représente son véritable pourquoi. Voilà. Donc après, tu as déterminé ton pourquoi, tu as établi ton plan de sortie en milieu conjugal. Pour la famille, tu as déterminé ton pourquoi, tu sais que c'est une relation toxique. Maintenant, tu vas dessiner comment va être cette relation dans le futur, après l'avoir quittée. C'est-à-dire, si elle est conjugale et que tu as des enfants, ça va être ton partenaire d'éducation. Donc, dans ce cas-là, comment je vais tracer ma route par rapport à ce partenaire d'éducation? Est-ce que je trouve que c'est un bon père, par exemple? Est-ce que ça serait une bonne idée qu'il soit mon partenaire d'éducation? Par exemple, si c'est un père qui bat ses enfants, qui abuse sexuellement de ses enfants, je vais commencer dès maintenant à récolter des preuves pour le tribunal. Je ne vais pas être dans l'émotionnel. C'est enregistrer des discussions, etc. Si, par exemple, bon, généralement, la personne toxique n'est pas un bon père, mais si tu vois qu'il n'y a pas d'abus dirigé directement vers les enfants, je vais essayer de préparer mes enfants. Comment je vais préparer mes enfants? Sans pour autant dire à l'abuseur que je vais le quitter. Tu vois? Donc, on travaille tout ça. Après, il y a aussi, si c'est familial, comment je vois ma relation avec ma famille. J'ai décidé, j'ai établi par exemple un plan de sortie, j'ai décidé de vivre seule, je vais louer un appartement, voyager, je ne sais pas, je vais partir vivre ailleurs ou peu importe. Comment je vois ma relation avec ma famille? On reparle alors des moments des débits de fréquentation. Et comment je vais établir mes limites avec ma famille? Comment je vais communiquer mes limites avec ma famille. Maintenant, si c'est conjugal, il faut contacter un avocat. C'est très important. Dans le plan de sortie, on le fait parce que pour connaître vos droits et vos devoirs. Et en fonction de là, on leur dit de chercher une personne de confiance Généralement, c'est la famille, une personne de confiance et une personne que l'abuseur ne peut pas identifier comme personne de confiance, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir des problèmes avec l'abuseur. Si, par exemple, ça peut être une amie, mais une amie, c'est-à-dire l'abuseur ne la connaît pas vraiment, ne connaît pas son adresse, etc. Sinon, on propose des hébergements dans nos maisons d'hébergement. Elles viennent, on planifie tout le transport, etc. Et c'est des endroits confidentiels. Voilà. Et il y a toute une procédure aussi. Je ne vais pas trop rentrer dans le juridique, etc. Moi, je préconise pour ces femmes, si elles sont dans un danger immédiat, d'appeler les maisons d'hébergement, d'appeler les associations, parce qu'elles vous donneront plus de détails. Je pense que peut-être chaque pays a ses règles, etc. Elles vous donneront plus de détails sur les procédures à suivre pour établir un plan de sortie. Mais très important, établir un plan de sortie immédiat, mais pensez aux moyens et au long terme. Comment vous allez voir votre vie après? Comment vous allez planifier en fait votre chemin, votre cheminement vers vous-même? Ce que l'on fait, nous, c'est que l'abuseur, quand tu es avec un abuseur, qu'il soit familial ou autre, il va essayer d'aspirer tout, comme j'ai dit, c'est des vampires émotionnels. Et généralement, les victimes, elles nous viennent en manque de confiance en elles, dépitées, perdues, parce qu'elles faisaient confiance à cette personne et elles ont finalement réalisé que c'était complètement quelqu'un d'autre. Elles ne nous font même pas confiance, nous, par exemple. Ça se fait partie du syndrome post-traumatique, du stress post-traumatique. C'est un réflexe de stress. Elle commence à voir tout en noir. Elle qui voyait tout en blanc, elle va se dire, si lui a mis un masque pendant toutes ces années, donc pourquoi je ferais confiance à X, Y, à l'assistante sociale ou, tu vois? Donc, c'est pour ça, d'où l'accompagnement. Et ça dépend en fait de là où vous êtes, mais si vous voyez que ça prend vraiment une place très importante dans votre vie, ce deuil, il faut, je pense, à mon sens, faire un travail thérapeutique. Ça devient une obligation. Voilà. Est-ce que tu avais une autre question par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça.
Non, du coup, non, non, très bien. C'était ce genre de réponse que j'attendais, donc très clair. Tout ce qu'elles peuvent mettre en place, en tout cas ce qu'elles doivent mettre en place en priorité quand elles veulent quitter une relation toxique. Et c'est bien que tu parles de au moment où elles sont encore dans la relation, et puis de penser aussi au après, justement de planifier le après, parce que je pense que si le après n'est pas planifié et qu'elles se retrouvent dans des situations qui sont aussi déplaisantes, ça peut aussi les pousser à repartir en arrière.
Repartir et ça peut aussi avoir des conséquences dramatiques. On sait que les féminicides, c'est immédiatement après avoir quitté le domicile conjugal. Et ne dites pas que non, il n'est pas violent, il ne m'a jamais battu, qu'il ne peut pas être dangereux. Il faut vraiment le traiter comme un cas et pas comme une personne.
C'est bien que tu précises ça, ouais, c'est important. Donc, c'est vraiment tout un plan d'action qu'il faut mettre en place. Il faut bien le penser, il faut le penser intelligemment, sans oublier aucun détail. En fait, comment lui, il a préparé sa venue vers la personne pour pouvoir le contrôler, c'est comme ça aussi que le plan doit être préparé pour chaque petit détail pour que justement il ne puisse pas rattraper la personne, quoi.
Effectivement, tu as très, 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 très bien résumé la situation. Et encore une fois, hein, ce que j'ai donné, c'est vraiment des choses à faire tout de suite, dans l'immédiat. Après, moi, ce que j'ai fondé Stop Violence and Thrive, qui veut dire arrêter la violence, c'est-à-dire tout ce que je vous dis maintenant. Après, bien sûr, il y a le processus de guérison, il y a beaucoup de choses à faire derrière. C'est-à-dire la relation familiale, ça va être émotionnellement important. La relation conjugale, vous allez plusieurs terrains qui vont être dangereux et minés. Par exemple, ça va être le terrain de la justice, ça va être, il n'y a pas que les émotions. Donc, au début, la femme, elle est dans le combat. Elle est plutôt combattante. Après, elle devient survivante. Et d'où l'importance de l'accompagnement. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, je préférerais que toutes les victimes se fassent accompagner. Sinon, si vous le faites toute seule, c'est très long et vous pouvez ne pas arriver au bout parce que quand même, il y a des gens qui sont formés pour ça, qui vont vous aider pour arriver d'un point A à un point B. Ils vont vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, vraiment, j'aimerais que ça soit, que ça rentre dans les lois, que ça soit remboursé, je ne sais pas. Parce que c'est vraiment un souci à intérêt public. C'est vraiment très important.
Mais du coup, quand tu nous dis ça, alors une personne qui sort d'une relation toxique, Qu'est-ce qui est mis en place justement aujourd'hui pour pouvoir l'aider? Quel type de solution on a?
Il y a beaucoup de prises, de plus en plus en fait, de prises de conscience sur ce sujet-là. Donc, on parle beaucoup de violence psychologique. Et ça, c'est vraiment une victoire pour nous dans ce domaine-là. La parole de la femme et de l'enfant commence par être écoutée. Je sais aussi que chez vous en France, les pharmacies, par exemple, ont été partenaires dans l'action dédiée aux femmes victimes de violences conjugales. Tu pourras me le confirmer, je ne sais pas si c'est...
Franchement, j'en ai aucune idée.
Alors, c'est très important de le savoir, je vous le dis. Je sais que vous pouvez, pour les femmes qui sont dans des relations toxiques, vous pouvez faire appel à des pharmacies. Je pense que les pharmacies, je pense pour la plupart, parce que j'ai lu un article sur ça, ont été formées à écouter la parole. Et en fait, je pense qu'il y avait un mot de passe. Si vous pouvez juste faire une recherche sur Google, chercher un médicament fictif, quelque chose comme ça, et le pharmacien peut alerter les autorités. Et surtout pendant la COVID, je trouvais que c'était magnifique cette idée.
Ah bah oui, ouais, ça, parce qu'une relation toxique pendant le Covid où on est confinés ensemble, ouais.
Tu sais qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de violences. On a eu énormément d'appels pendant la COVID par rapport aux violences conjugales, parce que la victime, elle se retrouvait en fait coincée avec son abuseur. Personne ne pouvait. Avant, il allait travailler, par exemple, elle pouvait peut-être sortir, mais elle le voyait H24. Donc lui, il était frustré par rapport à ça et la frustration, elle s'est fait ressentir sur la victime. Voilà, donc je reviens sur ce qui se fait. Je sais que c'est une bonne nouvelle, je trouve, en France. J'ai lu qu'il y avait une loi qui a été récemment votée, je pense en février de cette année, et elle entrera en vigueur en novembre 2023. Cette loi, c'est une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. C'est juste magnifique. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est quand même un pas en avant. Je sais aussi que maintenant, l'auteur des violences conjugales en France, hein, je pars toujours en France, peut être contraint à quitter le domicile. La loi permet l'éviction du conjoint violent. On l'a eu depuis longtemps, je pense, le no contact ici et aux États-Unis, le restraining order. Parce que là, généralement, les personnes toxiques, surtout les hommes, ils vont pas vouloir quitter le domicile, même si c'est le domicile de la femme. Donc, vous pouvez maintenant appeler les autorités, appeler la police. Et si la police constate, c'est-à-dire qu'elle rentre dans la scène et qu'elle constate qu'il y a eu violence, etc., il peut être contraint à le faire. La victime aussi, elle peut bien sûr quitter le domicile si elle le souhaite. Mais si, par exemple, c'est très important pour la victime, si elle part du domicile conjugal, il faut quand même qu'elle fasse une main courante au commissariat, parce que sinon, ça va lui être reproché devant le tribunal. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je te dis les plans de sortie, tout ça, en fait, rentre dans le plan de sortie. Et c'est très important, parce que la victime, des fois, elle sort sur un coup de tête, etc., et c'est pas bon. Mais je dis toujours aux victimes, ne jamais sortir sur un coup de tête, prendre la valise et sortir. Non.
Ouais, parce qu'on peut reprocher d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir failli à ses obligations.
Effectivement. Et même la victime, elle ne sera pas prête parce que l'après, il est dur. C'est exactement comme si tu enlevais encore une fois la drogue à quelqu'un. Donc, c'est facile de dire, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de prendre de la drogue, mais après, parce que nous, on travaille sur le long terme. Surtout pour les enfants, d'être trimballés aller-retour, etc., c'est un peu compliqué. Donc, je réponds à ta question rapidement. Vous avez des numéros spécialisés, le numéro le 3919 qui est connu chez vous. C'est un service spécialisé dans les violences faites aux femmes. L'association du réseau France Victimes, le 116-006 Victimes. Il y a des centres d'information pour les droits des femmes. Il y a le site parcours-victimes qui vous aide aussi. Vous pouvez vous faire assister par un avocat. Je sais que les frais d'avocat dans votre cas et dans certains cas où il y a vraiment de la violence manifeste, vous pouvez faire appel à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que les frais d'avocat seront pris en charge. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans le domaine juridique, notamment parce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les procédures juridiques et parce que c'est quelqu'un qui excelle dans la manipulation et dans le mensonge. Donc, il peut facilement manipuler les juges, le jury, etc. Il y a des techniques qu'on enseigne aux victimes aussi lors des audiences, comment bien se comporter en audience, comment bien exposer ce qu'elles vivent, etc., pour ne pas se faire retirer le statut de victime. Parce que pour moi, c'est très important. Comme je te l'ai dit, je n'aime pas parler de victime parce que je ne veux pas que vous restiez dans la mentalité de victime. Ce n'est pas du tout mon approche. Pour moi, vous êtes survivante. Mais à un certain moment, je vois que beaucoup de gens vous disent non, tu n'es pas victime, non, il ne faut pas se dire ça, etc. Non, il faut reconnaître quand même le statut de victime à une victime parce que tout au long de sa vie dans cette relation, elle a été traitée comme l'agresseur. Donc déjà, le fait de l'écouter, de lui dire, OK, tu es une victime avant tout. Tu es une victime. Après, quand on finit avec ça et qu'elle décide de quitter la relation, maintenant, on va lui dire, OK, tu es une victime, mais tu as eu ta part de responsabilité. Mais ne pas vraiment lui jeter la responsabilité à la figure dès le début. Alors, ce que je pense aussi le plus important, c'est de diffuser l'information partout et de mettre à disposition ces informations gratuitement à la portée de tout le monde. Parce que finalement, la seule personne qui va venir, comme je t'ai dit, la seule personne qui va venir en aide aux victimes, c'est les victimes elles-mêmes, si elles arrivent à prendre la bonne décision au bon timing. Il y a beaucoup aussi de belles choses qui se font en Amérique du Nord. Je sais qu'en France, l'idée, elle commence à se démocratiser, ce qui est une bonne chose. Et je vois beaucoup de thérapeutes qui maintenant commencent à s'intéresser à ça. Donc vraiment, c'est un très, très bon début parce que on voyait que des thérapeutes de couple, des communications non violentes, etc. Je vois de plus en plus de contenu sur les relations toxiques. Moi, je crois à la parole de soit un spécialiste qui a travaillé avec plusieurs victimes au fil des années ou bien un survivant, une survivante qui ont décidé de faire de leur temps l'aide aux victimes qui sont victimes maintenant. Donc, je crois la parole de ces deux personnes. Je ne pense pas que n'importe qui puisse parler de relations toxiques comme ça. Voilà. Chez nous, bien sûr, alhamdoulilah, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant parce qu'il faut dire qu'il y a une ligue de survivantes, surtout des mamans, qui sont en train de repousser en fait les limites de la justice en reconnaissant les droits des mamans et les droits des enfants. Surtout en ce qui concerne la garde des enfants, qu'elle ne soit pas partagée comme une garde lambda, si tu veux, que la parole de la victime soit écoutée. Et je vois qu'il y a de plus en plus de juges qui vont vers ce chemin-là, en tout cas ici au Canada. Je l'espère pour vous en France. On a aussi les maisons, pour celles qui nous écoutent, qui sont, je ne sais pas, peut-être qui sont au Canada, on a beaucoup de maisons d'hébergement. Alors, ces maisons d'hébergement, vous pouvez juste taper violence conjugale et mettre la province où vous êtes. Vous allez avoir une liste de ressources municipales ou bien à l'échelle de la province qui vont vous donner à peu près les adresses, les contacts des maisons d'hébergement, des refuges pour femmes victimes de violences, des avocats, des organismes qui aident les femmes victimes de violence domestique ou conjugale, parce que domestique, c'est aussi familial. Voilà, j'ai envie aussi de dire que il ne faut pas hésiter à en parler. Il y a des gens qui sont formés pour ça, qui vont vous écouter. Vous pensez peut-être que personne ne peut vous comprendre. Vous vous dites, mais moi, non, c'est pas la même chose. Je suis pas au stade de la gifle. Je suis pas au stade de la violence financière. Je suis très autonome. J'ai mes amis. Ils ne m'isolent pas. Donc non, je ne suis pas dans une relation toxique. Moi, je dirais, apprenez à écouter votre instinct. Vous l'avez en vous. C'est vous qui le détectez. Donc si vous voyez que cette relation suit un cycle répétitif qui vous fait du mal, que vous vous sentez perdu, que vous n'arrivez pas à voir la lumière au bout du tunnel, il faut faire une pause, il faut réfléchir à ça. Ne niez pas votre ressenti, c'est très important. Ne niez pas vos sentiments. Je sais que je l'ai déjà posté sur mon compte. Une chanteuse connue au Québec, elle était victime d'une relation toxique et elle avait subi des violences psychologiques pendant des années. Et elle a divorcé et après 6 ans, je pense, 6 ans après le divorce, elle a vu un spot publicitaire sur les violences conjugales et elle éclatait en sanglots parce qu'elle n'avait pas fait un travail sur elle. Elle n'avait pas soigné le traumatisme engendré par cette relation et elle avait fait appel à SOS violence conjugale. Ils l'ont aidée, elle a eu accès à des psychologues, etc. En tout cas, ici, il y a possibilité de suivre une thérapie gratuitement et elle a été prise en charge. Donc, comme quoi, ce n'est pas parce que tu es sorti de la relation que c'est bon, c'est fini.
C'est ça. Il y a un cheminement. Et donc, du coup, bah, c'est ça, en fait, là, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment on se reconstruit après avoir vécu une relation toxique et qu'on n'est plus dedans. Quelles sont les différentes étapes pour plus être une victime, pour plus être une survivante, mais pour tout simplement vivre, comme tout le monde?
Alors, pour se reconstruire après une telle expérience, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Je préfère commencer par parler des choses qu'il ne faut surtout pas faire immédiatement après une relation toxique. Je ne sais pas si tu devines ce que je vais dire, mais je vais me lancer quand même. Il faut absolument éviter de se jeter, je dis bien se jeter, dans une autre relation après être sorti d'une relation toxique. Alors, je comprends que ça puisse être très, très tentant après une telle relation, parce que généralement, les victimes ressentent une blessure de rejet et d'abandon, même si la victime a décidé de mettre fin elle-même à la relation. Mais la plaie reste encore ouverte, comme je t'ai dit. Donc, il y a deux cas de figure dans ce contexte-là. Je parle de relations conjugales surtout, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça qui me disaient... J'ai peur d'être seule, je ne saurais pas gérer ma vie seule avec mes enfants, je ne sais pas quoi faire. On m'a toujours dit, oui, mais toi, tu es courageuse. Et ça me frustre, tu sais, quand on me dit ça. Oui, mais toi, ce n'est pas la même chose, tu es courageuse. Non, je suis un être humain comme vous, bien sûr. Alors, oui, ben, je n'ai pas les ressources financières aussi, ça revient, ça revient beaucoup. Je ne saurais pas gérer toute seule. Il me faut un homme, entre guillemets. Alors, il y a... Comme j'ai dit, deux cas de figure. Soit vous allez partir aveuglément, vous vous jetez encore une fois dans une relation avec une personne qui n'est pas toxique, disant que ça sera votre cadeau du destin, et une personne normale si tu veux. Et là, vous allez ramener avec vous votre lot de blessures, de traumatismes passés, antérieurs. Vous allez tout laisser comme ça, tout déballer devant cette personne, la mesquina, qui demande elle aussi, ce conjoint, il demande aussi à avoir droit à avoir une relation saine aussi. Donc, ce que vous faites, c'est exactement comme la personne toxique. Mais vous allez vers l'autre extrême, c'est-à-dire vous êtes en train d'imposer à cette nouvelle personne l'histoire qui n'est pas la sienne. Et c'est mal ce que vous faites, ok? Vous allez inconsciemment punir la nouvelle personne parce que l'autre personne, la pr personne précédente, l'ex toxique, vous a fait. Et vous n'allez pas être pour autant heureuse parce que si vous croyez que cette personne, si elle est saine, le conjoint, s'il est sain, le nouveau, va vous soigner, c'est faux. Personne ne peut vous soigner. Vous devez vous soigner vous-même. Il n'y a pas de personne qui va vous rendre heureuse. Et il faut vraiment intégrer ça dans votre vie et dans votre tête, surtout si vous souffrez de dépendance affective. C'est très important. L'autre cas de figure, c'est que malheureusement, et c'est ce que j'ai remarqué dans la majorité des cas, c'est que vous allez inconsciemment trouver un autre partenaire toxique et refaire le même cycle, c'est-à-dire la même personne avec des noms différents. Donc, dans les deux cas, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire ce que je vous dis et de ne pas rentrer immédiatement, directement dans une relation toxique sans avoir fait un travail sur vous, sans avoir compris les raisons qui vous ont poussé dans cette relation. La majorité des femmes qui ont vécu dans des relations toxiques, qu'elles soient amicales, familiales ou conjugales, vont développer des traumatismes qui vont engendrer un trouble qu'on appelle le trouble du stress post-traumatique ou le trouble du stress post-traumatique complexe. Alors, c'est très important, ce trouble. Ce trouble, c'est un ensemble de symptômes qui résultent de la pression et de l'angoisse du stress vécu pendant un événement traumatique. Ici, on parle de relation toxique, donc pendant la relation toxique. Cet événement traumatique peut être un accident de voiture, un décès, etc. Mais on a trouvé que les mêmes symptômes se trouvaient chez des personnes qui ont été dans des relations toxiques. Alors, ce que l'on sait, en tout cas ce que j'ai étudié dans ma formation sur les traumatismes, c'est que ce type de trouble diffère d'une personne à une autre. Ça, c'est vérité surtout. Elle diffère d'une personne à une autre. Ça dépend aussi de l'événement vécu. Donc, on a des personnes qui arrivent à guérir de ce trouble avec le temps, avec des techniques qu'elles vont développer elles-mêmes. On parlait de techniques elles-mêmes. Mais, j'en parlais après, mais il y a chez d'autres personnes une sévérité de ces symptômes et de ces troubles qui ne peuvent pas être résorbés avec le temps ou par des efforts individuels. Donc, comme je t'ai dit, le rôle de la psychothérapie ici est primordial pour ces personnes. Et je conseille à ces personnes-là de voir un psychologue. Et ça devient obligatoire parce que je comprends que plusieurs femmes qui sortent de relations toxiques, généralement, n'ont pas vraiment les moyens. La personne toxique qui va contrôler les finances. Donc, je comprends tout à fait que c'est un peu difficile. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut faire appel à des organismes comme l'organisme dont je fais partie, qui est un organisme à but non lucratif. C'est-à-dire, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas rester dans cette situation de non, personne ne va m'aider, je ne peux faire confiance à personne. Il faut essayer de trouver une solution pour s'en sortir. Si ces symptômes prennent beaucoup de place dans votre vie et qu'ils deviennent incontrôlables, vous allez être amené à développer des angoisses, à développer une dépression et ça va se compliquer chez vous. C'est ce qu'on ne veut pas. Pour vous donner une idée de ces symptômes, des symptômes du stress post-traumatique, vous avez les palpitations cardiaques, des troubles de concentration, des amnésies partielles, des fois. Vous avez aussi le syndrome du flashback. Alors, le syndrome du flashback, il est commun. C'est le plus fréquent chez les femmes. C'est que tu es incapable de te concentrer sur le moment présent. Tu es complètement absente. Tu te remémores des souvenirs comme ça. Comme je t'ai dit, soit des souvenirs de violence ou bien les bons moments. Tu as des femmes, parce que c'est une maison là où on est, si jamais quelqu'un fait tomber, par exemple, quelque chose, elle sursaute. Parce qu'elle avait avant affaire à un homme violent, par exemple, il y avait des bris de glace. C'est un état d'alerte. Et comme je t'ai dit, vraiment, l'intensité, elle diffère. J'ai eu une femme qui avait peur de sortir, qui avait peur d'ouvrir la porte et de sortir parce qu'elle avait peur de représailles de son ex. Elle avait peur qu'il la voie et elle avait peur surtout qu'il kidnappe ses enfants. En fait, il n'allait jamais kidnapper les enfants, mais tout le temps, il était en train de la menacer de le faire. Donc, elle a gardé ça en elle. Et elle n'arrivait pas à sortir. On les pousse à sortir, à faire des courses, etc. Elle avait peur. Elle avait vraiment peur. Et elle voulait à un certain moment même changer de ville. Ce n'était pas évident avec les enfants. Ici, le travail thérapeutique, il est très important. Il y a des techniques bien précises, des techniques thérapeutiques qu'ils vont faire avec la cliente. En fait, les techniques thérapeutiques, c'est des techniques axées sur le traumatisme. Je ne parle jamais de thérapie classique. Dans votre cas, dans le cas d'une relation toxique, parler, parler, parler ne va pas résoudre grand-chose. C'est très important qu'il y ait à côté de cela des techniques axées et tous les thérapeutes les connaissent parce qu'il y a des spécialistes en traumatisme. Donc, je vous invite à les contacter. C'est mieux. Ce que je leur dis de faire quand il y a des stress comme ça, ces symptômes-là, ce qu'elles peuvent faire immédiatement toutes seules, c'est les exercices de respiration. Elles ont prouvé leur efficacité. Ces exercices de respiration, vous avez l'exercice de le 2, 5, 8. Donc, aspiration, tu comptes jusqu'à 2, après tu bloques 5, après inspiration, c'est 8.
D'accord. Et ça, c'est pour pouvoir contrôler le stress, c'est ça?
Effectivement, ça, c'est pour pouvoir contrôler les crises, les angoisses qui viennent tout de suite. Et on a vu aussi des résultats, en tout cas, c'est ce que Dr. Armani nous a dit. Elle a vu même des résultats sur le lien traumatique, c'est-à-dire quand elle commence à ressentir les effets du manque, ces exercices-là peuvent l'aider dans l'immédiat. C'est vraiment des exercices à utiliser. C'est des réponses urgentes, si tu veux.
Et du coup, ces exercices-là, c'est des choses qu'on fait en thérapie aussi, ou on peut les trouver un peu sur Internet?
En fait, tu peux le faire toute seule. Oui, tu peux trouver beaucoup d'exercices de respiration. L'exercice que je t'ai donné du 2, 5, 8, c'est un exercice qui va t'aider à réguler ton rythme cardiaque et à déjà, ça te permet de ne pas te concentrer, de ne pas angoisser et ça va t'aider à te concentrer c'est-à-dire sur l'endroit où tu es maintenant. Et c'est pour ça que je reviens vers la méditation. Pour eux, la méditation, pour nous, on a déjà notre méditation à nous. Donc, c'est très important de privilégier aussi le côté spirituel. Et ça a été, en tout cas, prouvé que le côté spirituel aidait énormément à faire face au traumatisme. Il y a un très, très bon livre. Est-ce que vous connaissez Yaqeen Institute? Donc, Yaqeen Institute, c'est un institut islamique aux États-Unis fondé par Dr. Omar Suleiman. Ils font un travail gratuit sur tous les aspects. Donc, Yakin, c'est WAQEEN, Institute. Vous pouvez taper Omar Suleiman. D'ailleurs, il a une série très, très intéressante sur Ramadan, sur Al-Jannah, sur le paradis. En fait, deux spécialistes qui sont thérapeutes spécialisés en traumatisme. on fait un travail magnifique sur l'effet de la spiritualité pour aller au-delà des traumatismes. Moi, je préfère que vous fassiez un travail quand même avec un thérapeute.
Oui, avec un thérapeute, bah oui, mais après, ça n'empêche pas de combiner les deux, c'est très bien, quoi.
C'est très bien, surtout si vous êtes plutôt anglophone, il y a même des exercices que vous pouvez faire, etc. C'est juste magnifique et c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur leur site internet. Sinon, il y a beaucoup de alhamdoulilah, de thérapeutes chez vous qui sont musulmanes et qui peuvent vous aider en tout cas sur les traumatismes. Il y a des techniques qu'ils font aussi. Je n'ai pas envie de parler trop à la place des thérapeutes. Je sais qu'il y a la technique de l'EMDR qui marche très bien, mais après, je ne sais pas si elle est pratiquée ou pas par les thérapeutes musulmane, ça, je ne sais pas trop. Je parle de résultats que j'ai vus de mes propres yeux. Donc, c'est une technique qui marche vraiment. Mais je n'aime pas parler à la place du thérapeute, encore une fois. Faites vos recherches, regardez les avis sur les thérapeutes et vraiment, c'est très important. Si vous voyez, encore une fois, que ces syndromes du stress post-traumatique prennent beaucoup de place dans votre vie, il serait très intéressant d'effectuer un travail avec une personne
compétente.
Voilà, donc aussi, bon, moi, ma technique préférée que je préconise chaque fois et tout le temps, et je ne cesserai jamais de le dire, c'est de tenir un journal. Je préconise le journal, c'est un outil efficace, ça va vous aider en fait à visualiser vos pensées, à les matérialiser pour que ça reprenne la place de pensée. Parce que nos émotions sont contrôlées par nos pensées. Et on sait qu'il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive quand la victime est avec un abuseur. Tout ce qu'il va lui dire, en fait, c'est des pensées qu'elle va prendre de sa bouche à lui et les mettre dans sa tête. Et elle va croire tout, tu vois. Et ce qu'on fait, nous, c'est vraiment, comme je t'ai dit, de déchiffrer, en fait, de déchiffrer cette victime. Par exemple, il t'a dit que tu ne sers à rien, tu es bête et tu ne sers à rien. Ben, on va voir si toi, tu es bête et que tu ne sers à rien. Est-ce que toi, tu es bête, tu ne sers à rien? Et on va discuter avec elle de plusieurs situations dans sa vie où on va favoriser le fait qu'elle ait trouvé des solutions, aider des gens, etc. Donc, on va aller vraiment dans… On va faire tout le contraire de ce que fait l'abuseur. L'humilier, surtout en milieu de violence financière, par exemple. Tu me dis que tu n'es pas apte à gérer. Toi, tu es spécialiste en finance. Tu me dis que tu n'es pas apte à gérer, eh ben on va prendre par exemple, c'est ce qu'on fait aussi avec les femmes qui nous viennent, on leur donne de l'argent et on leur dit, bon, je vais venir avec toi, je sors avec eux carrément et on va faire les courses. Et je lui dis, voilà, tu as un tel budget, j'ai besoin de tel truc. Il y a des gens qui me disent, j'ai jamais pris l'autobus. Eh bien oui, tiens, on va acheter un ticket, je monte avec eux en autobus. Et je lui dis, vas-y, c'est toi qui vas acheter l'autobus, le ticket de l'autobus, c'est toi qui vas le mettre composté, c'est toi qui vas, par exemple, on a le système à cliquer sur les arrêts, etc. C'est toi qui, je lui donne Google Maps, je lui dis, je veux cet arrêt-là. Elle me dit, non, 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 mais je ne sais pas lire sur Google Maps. Non, 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 tu vas lire sur Google Maps.
En fait, elles réapprennent complètement à être indépendantes.
C'est pour te dire à quel point. Et ça peut être des femmes très intelligentes. Et on a vu, je te dis, des femmes qui sont venues chez nous vraiment en manque de repères et elles sont reparties avec un business qui est en main. Il suffit de savoir connaître le bouton. Tu vois, chacune de nous est spéciale. Si je clique sur ton bouton à toi, tu vas décoller toute seule. Je n'ai pas besoin de te montrer les choses. Maintenant, par exemple, dans le cas de l'autobus, cette même femme, quand elle arrive, je lui dis, ben, tu vois, est-ce que toi, tu es inutile et tu ne sais rien faire? Elle me dit, oui, j'ai pris l'autobus, etc. Je lui dis, tu sais quoi? Demain, Charles, là, tu vas le faire toute seule. Et tu vas me parler en caméra, tu vas le faire toute seule. Et elle le fait. Et puis, elle commence à ressentir les joies du transport en commun. C'est juste un exemple par rapport à…
Ouais. Et même ces petits trucs qu'on trouve vraiment futiles, minimes, quoi, qu'on fait tous les jours, bah, pour elle, ça va être un peu de la fierté. Et puis, elles vont se sentir capables de faire des choses. Et donc, ça leur donne un peu plus confiance en elles aussi.
C'est ça. On les pousse. C'est très important de l'émanciper. Et là, émanciper aussi, il a été associé à émancipation de la femme, etc. Non, 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 il faut l'émanciper. C'est très important parce qu'on sait que quand elle quitte notre organisme, elle va vivre seule avec ses enfants. Et généralement, c'est des personnes qui sont venues ici, qui n'ont pas de famille ici au Canada. Imagine-toi. On ne veut pas qu'elle commence à... Des fois, j'avais des appels au milieu de la nuit pour me dire, j'ai entendu l'alarme sonner, qu'est-ce que je dois faire?
Ah oui, comme quoi. Parce qu'elle gérait vraiment rien au domicile.
Parce que c'était tu sers à rien, tu es bête, tu sers à rien. Donc, dans sa tête, elle sert à rien. Et en plus, quand elle veut partir, elle lui dit, si tu pars, tu vas finir seule et tu vas pas pouvoir gérer, etc. Donc, on est en train de... C'est pour ça que je te dis, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accompagnement. OK, qu'est-ce que je t'ai appris par rapport à l'alarme? Tu fais un, deux, trois, quatre. Est-ce que tu as fait ça? Ah non, 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 je n'ai pas fait. Ben, fais-le. Elle le fait devant moi. Tout est bon. Après, la prochaine étape, c'est d'appeler la police. Tu vois, c'est d'appeler l'école. Tout ça, c'est un ensemble de... Bon, ce n'est pas toutes les femmes qui sont dans ce schéma-là, mais on va vraiment... On accompagne même les femmes qui sont vraiment au bout du bout. Voilà. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire aussi. J'ai pas envie de trop prendre de ton temps en matière de reconstruction. Tenir un journal, comme j'ai dit, c'est très important. Je donne aussi, bon, le journal, après, il y a beaucoup de choses à dire sur le journal. Vous pouvez commencer à écrire, 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 ça, c'est bon. Mais dans le cas de liens toxiques, pour rompre le lien toxique, ce que je leur donne, moi, c'est des réflexions, ce qu'on appelle prompts. Ces réflexions-là vont les guider à trouver des solutions, à trouver des réponses à leurs questions. On ne répond jamais aux questions, tu vois? C'est à elles de trouver les réponses à leurs questions. Parce que si tu réponds, elle va prendre cette habitude de toujours faire appel à quelqu'un pour avoir une solution. Donc, c'est exactement comme l'enfant.
C'est ça, on les infantilise un peu plus, quoi, au lieu de les émanciper.
Effectivement. Et même si tu as une femme qui est le contraire, responsable, trop responsable dans une relation toxique, qui travaille, l'homme ne travaille pas, c'est elle qui travaille, la famille ne travaille pas, etc., ben on fait le processus inverse. C'est-à-dire qu'on va l'aider à vraiment prendre soin d'elle, à lui dire, It's OK, t'es pas obligée d'être parfaite.
C'est ça. Et qu'elle apprenne aussi à compter sur les autres, non?
Exactement, exactement. Qu'elle fasse, qu'elle à déléguer. On lui apprend à déléguer. Est-ce que tu peux trouver une solution par rapport à ça? Non, 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 il faut que moi je le fasse. Non, est-ce que tu peux trouver une solution? Je dois, par exemple, il y a mes frères et sœurs qui m'attendent, ou ma mère. Bon, OK, tu veux le faire, c'est très bien. Est-ce que tu peux trouver une solution pour l'aider à, je ne sais pas, subvenir à ses besoins? Ou est-ce que tu peux, par exemple, lui envoyer par la banque, l'appeler, lui dire, bon, maman, à partir de ce jour, je peux t'envoyer, je n'ai pas les moyens, je ne peux t'envoyer que ce montant-là. Si je lui dis ça, elle va me dire, tu iras en enfer, etc. Est-ce que toi, tu es prête aujourd'hui à écouter ça sans le croire? C'est là la question. Et elle essaie, on l'accompagne à mettre des limites. En fait, c'est le contraire. Tu vois, donc chaque femme, il y a une approche différente.
Après, c'est sûr qu'il y aura toujours, comme tu dis, en fonction de chaque personne, il y a des particularités, des cas spécifiques. Donc, on s'adapte aussi au vécu de la personne et des traumatismes qu'elle a eus. Mais en règle générale, ce que tu nous as donné avant, c'est un peu ce qui pourrait revenir pour chacune des personnes, quoi.
Effectivement. La règle générale, c'est de recentrer, mettre la victime au centre de sa vie. C'est la règle générale. Maintenant, si tu n'as pas confiance en toi, je vais te mettre au centre de ta vie pour voir que toi, tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Si par contre, tu es responsabilisé, etc., mais que tu as d'autres, comme tu as dit, d'autres, c'est sûr que tu vas ressortir avec d'autres traumatismes, etc., je vais par exemple t'apprendre à arrêter d'être perfectionniste, tu vois? Parce que le perfectionnisme, quand je t'ai dit, j'ai été victime de perfectionnisme, je sais ce que je dis. Trop longtemps, j'ai même des séquelles, mais trop longtemps j'ai été victime de perfectionnisme. Je sais que derrière le perfectionnisme, il y a toujours quelque chose. Donc on va aller derrière ça. Et c'est très important aussi, quelque chose de très important, c'est qu'on leur apprend à accepter les émotions, à s'écouter et à les accepter. Tu vois, pour pouvoir faire un travail sur elles, elles doivent recevoir ces émotions et travailler sur ces émotions. Elles ne doivent pas se dire j'ai honte parce que je ressens de la peur. Donc, tu ressens de la peur, ok, tu es un être humain, on va voir pourquoi tu ressens de la peur. Mais il faut pas qu'elles se disent j'ai honte parce que j'ai été avec cette personne. Non, j'aime toujours cette personne, je pense à lui. C'est pas grave, il faut le verbaliser, il faut l'écrire. Il ne faut pas avoir honte d'avoir accepté de rester, etc. On enlève aussi la culpabilité, tu vois, et la peur. Je pourrais écrire un livre sur
Sur ça, ouais, bah après, c'est un sujet qui est tellement
Oui.
complexe, vaste, que je pense qu'il y aura, il y a beaucoup de choses à dire
C'est
dessus.
sûr.
Après, on ne peut pas rester des heures
Des heures
sur
sur ça,
ces,
oui.
ouais, sur ça. Mais bah, déjà, le fait que tu nous apportes ces éléments de réponse, moi, je trouve ça très bien parce que c'est des pistes et
Voilà.
ça nous permet de savoir quelle direction prendre. Donc, c'est très, très bien, machallah. Et je te remercie pour ça.
Mais avec plaisir.
Alors, du coup, avec tout ce que tu nous as dit, c'est vrai qu'on a beaucoup abordé le cas de la victime, donc avoir des réponses par rapport aux victimes, comment s'en sortir, comment les aider, comment se construire, etc., quand on est victime de relations toxiques. Et moi, avec toutes les réponses que tu donnes, il y a quand même une question qui me revient, enfin, qui me perturbe, entre guillemets, c'est la personne toxique en elle-même, d'accord? Parce que je pense que, voilà, une personne toxique, de tout ce que j'entends, j'ai envie de l'apparenter à une maladie. Je ne sais pas si c'est ce que je, enfin, si c'est le bon terme, mais j'ai l'impression que cette personne est déficiente quelque part, en tout cas qu'il y a un souci. Donc, déjà, j'aimerais savoir, est-ce que justement cette personne toxique, c'est quelqu'un qui naît comme ça? C'est, voilà, ça fait, c'est génétique ou pas? Ou est-ce que c'est une personne qui le devient parce qu'elle aussi a vécu des traumatismes et donc a développé un certain type de comportement? Et après, savoir est-ce qu'une personne qui est toxique, elle peut bah, justement ne plus l'être? Et si c'est le cas, bah, qu'est-ce qu'elle doit faire en fait pour pouvoir sortir de ce schéma de toxicité?
Alors, c'est une très très bonne question. Un petit mot pour les victimes, hein. Je suis sûre que si vous avez été dans une relation toxique, vous avez essayé de vous rebeller ou de réagir à un certain moment. Vous avez, comme je l'ai dit, vous avez sûrement eu droit au festival de larmes, de prises de conscience soudaines, de pièces dramatiques qui vous joueront pour vous garder encore dans cette roue de hamster, comme je dis, et de vous promettre qu'il va aller voir le thérapeute, etc. C'est sûr que vous allez vous dire, oui, cette fois, il fait les choses autrement, il ne fait plus les choses à moitié, je vais lui ouvrir mon cœur, je vais lui donner ma confiance encore une fois. Seulement, ce que vous voyez ne durera que la période nécessaire pour vous reprendre dans le rôle de la dominée. Après cela, tout reprendra de plus belle, comme je l'ai dit. Donc, déjà, je réponds aux victimes qui sont en train de se demander ça. Maintenant, pour le changement. Alors, le changement. Il faut déjà définir ce que c'est le changement. Le changement, c'est d'après Lindy Bancroft, encore une fois, dont on a parlé, l'expert qui travaille avec les abuseurs, il a dit qu'il n'y a pas de raccourci vers le changement. Le changement, ce n'est pas juste dire j'ai changé. Le changement, c'est véritablement qu'il admette entièrement que c'est de sa faute et de sa responsabilité. Il doit admettre qu'il fait ça sciemment. Tu vois? Il doit accepter aussi les conséquences de ses actions parce qu'il peut dire, bon, il va pas dire j'ai été toxique, mais il va dire j'ai été naze si tu veux toute cette relation et je comprends que tu puisses partir et l'accepter, c'est-à-dire ne pas essayer de t'aspirer, etc. En fait, lui, Lindy Bancroft, vraiment décrit un éventail de définitions par rapport au changement. Le changement, il n'y a que la personne qui est avec la personne toxique qui va vraiment le savoir. Et sur le long terme, pas sur le court terme. Si vous ne pouvez pas changer votre propre personnalité, comment voulez-vous qu'une personne qui n'est même pas consciente que c'est elle le problème puisse changer? Le narcissique est une personnalité rigide et très résistante au changement. Pourquoi? Parce qu'il manque d'empathie. Donc, en gros, ils se fichent pas mal de ce qu'ils font autour d'eux. Et on sait que le plus rigide la personnalité, le plus difficile pour elle de changer, parce qu'elle n'est pas ouverte à d'autres points de vue sur ses erreurs. Donc, un manipulateur chevronné peut même manipuler un thérapeute, comme je t'ai dit, qui ne soit pas assez formé sur la personnalité narcissique. C'est une réalité, malheureusement. Il suffit d'un mauvais jugement exercé par le thérapeute sur la sincérité du narcissique pour faire basculer l'abus vers la victime. C'est pour cela qu'il est déconseillé, comme je te dis, de faire une thérapie de couple ou bien de famille avec eux. Bon, maintenant, On voit que c'est, tu m'as dit, est-ce que c'est une maladie, etc. Donc, je répète encore une fois, moi, le pervers narcissique, beaucoup vont te dire, pervers narcissique n'existe pas en psychiatrie. Oui, ce qui existe en psychiatrie, c'est le trouble de la personnalité narcissique. C'est un trouble mental. C'est comme la sociopathie ou la psychopathie. D'accord? Il est décrit dans le manuel de psychiatrie. Ces personnes-là, je sais qu'il y a 5% des personnes qui souffrent du trouble de personnalité toxique qui suivent un traitement thérapeutique et psychiatrique. D'accord? Ce n'est pas mission facile. Pourquoi? Parce que ces personnes, le propre du narcissique ou du manipulateur, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience qu'il y a un problème. Toi, si tu vois que les gens autour de toi ont mal, etc., tu vas te dire à un certain moment, il y a un problème avec moi. Pourquoi je ressens ça? Tu te questionnes. C'est des personnes qui ne se questionnent pas. Maintenant, je reviens vers le pervers narcissique. Docteur Amani, qui est mon mentor, a identifié la personnalité toxique comme étant l'un des traits de personnalité. Je sais qu'il y a les Big Five, les thérapeutes qui m'écoutent peuvent les connaître, l'agréabilité, etc. Alors, la personnalité narcissique, elle fait par c'est un trait de personnalité. On ne naît pas avec, on l'acquiert. Comment? Effectivement, on l'acquiert comment? Oui, c'est vrai qu'il y a un terrain traumatique dans l'enfance. C'est tout à fait vrai. On peut pas le nier. Mais, je dis bien mais, il y a un psychothérapeute connu aux États-Unis qui s'appelle Ross Rosenberg, qui lui a défini en fait la différence entre. Il a beaucoup travaillé sur le narcissique et la dépendance affective. On entend beaucoup parler de dépendance affective. Ces deux personnes qui ont vécu un traumatisme dans leur enfance, ils peuvent être frères et sœurs qui ont vécu le même traumatisme, mais qui gèrent ce traumatisme de manière différente. Le narcissique a une extrême et le dépendant affectif est complètement à l'autre bout de l'extrême. Le narcissique, c'est quelqu'un. Il ne voit la validation aux yeux des autres par rapport à lui. Tout tourne autour de lui. Le dépendant affectif, qui est à l'autre extrême, il voit le contraire. La validation pour lui, c'est que tout tourne autour des autres. Pour qu'il se sente bien, il faut que les autres lui disent, sois bien, donc lui disent que tu es bien, donc il faut qu'il fasse le maximum pour les autres pour que les gens lui disent, ah ça va, t'es bien. Le narcissique, non, le narcissique se fout complètement de vous, de votre bien-être, de votre santé, de ses enfants, pas d'empathie, pas de conscience, etc. C'est pour ça que les narcissiques attirent beaucoup les dépendants affectifs. Ils se complètent. Le dépendant affectif a besoin de donner, donner, donner pour avoir un mot gentil. Le narcissique a besoin de prendre, 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 prendre pour donner au moins un mot gentil. Tu vois? C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de relations avec le narcissique qui comprennent un narcissique et pendant affectif. Voilà. Donc oui, c'est quelqu'un qui s'est construit pendant l'enfance. On parle de, bien sûr, comme tous les traumatismes, c'est l'environnement immédiat qui s'occupe de l'enfant, c'est-à-dire généralement les parents, ou bien s'il n'y a pas les parents, l'environnement vraiment immédiat, qui à un certain moment, on dit soit, il a soit été l'enfant roi, tu vois, et ou soit été négligé. Mais il a été remarqué que lorsque il paraissait, par exemple, premier en classe, il est toujours en compétition avec les autres. Tu vois, il faut qu'il écrase les autres pour survivre. Sinon, il n'a pas, si tu veux, de lien affectif naturel, sans condition entre les parents et cet enfant-là. Docteur Ramani dit un truc très, très, très intéressant, je le dis rapidement. Elle te dit, attention de dire, par exemple, aux enfants, quand il est dans la récréation, il faut pas lui dire, oui, c'est vrai, tu t'en fous, toi, tu le pousses, le plus important, c'est toi. Elle dit, il faut toujours apprendre l'empathie aux enfants. Un enfant, par exemple, qui n'a pas ramené son... Le lunch. Pas dire que ah tu n'as pas ramené, eh ben tant pis pour toi. Moi je mange mon dîner, par exemple. On dit dîner, c'est-à-dire le déjeuner, on le dit dîner ici. Pardon. Donc tu n'as pas ramené ton déjeuner, c'est pas grave. Moi je l'ai ramené, je te donne pas. Faut pas dire ça aux enfants. Il faut leur apprendre l'empathie. Et l'empathie ça s'apprend dès le début, dès le jeune âge. Donc vraiment je schématise ici parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que oui cette personne a subi La toxicité, c'est une résultante d'un traumatisme. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter et se dire, alors, il peut changer. On sait que ces pervers narcissiques, comme je te l'ai dit, ne partent jamais voir un professionnel que lorsque ils sont confrontés et contraints à le faire. Tu as compris? Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie que la victime ait de faux espoirs. On sait que, par exemple, il y a quelques cas de personnes qui ont eu le trouble de la personnalité narcissique qui ont commencé à pas guérir, mais à se soigner de ce trouble. Mais j'ai pas envie de le dire pour ne pas donner de faux espoirs, parce que c'est très compliqué. Les survivants, ils veulent à tout prix que la relation fantasmée qu'ils ont dans la tête, qu'elle marche, tu vois? Donc, ils donnent une énième chance toujours à la personne toxique. Et c'est ce que je veux pas. Plus important, c'est d'avoir cette acceptation radicale de la situation que vous vivez. Et je comprends que ça puisse paraître comme un échec personnel, que vous voulez à tout prix que votre mari, que votre enfant toxique change, mais sachez qu'il faut apprendre à choisir ses batailles, que nous devons apprendre que la seule responsabilité qui nous est assignée dans cette vie est celle de nous-mêmes, jamais des autres.
D'accord. Donc, en gros, là, ce que tu nous dis, c'est que une personne toxique, en fait, elle ne changera pas parce qu'elle voudra jamais prendre conscience que le problème, c'est chez elle. Donc, que ce soit avec nous ou avec une autre personne qu'elle rencontrera, il y aura toujours ce schéma-là et il y aura toujours une victime.
Effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, je l'ai vu avec une nouvelle femme sur Facebook, etc. Il est en train de l'utiliser pour justement attiser ta jalousie. Bien sûr qu'ils ne changeront pas. Tu ne peux changer personne toi-même. C'est la personne qui doit vouloir changer d'elle-même. Et pour vouloir changer, il faut qu'elle fasse un travail individuel sur soi. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester dans une relation toxique et dire que je vais changer. Tu vois? Et il faut voir la personne, comment elle évolue. C'est pas, oui, j'ai changé, je vais plus crier pendant 1 mois ou 2 mois, tu vois. Après, il change. C'est pas ça, le changement. Le changement, il faut que ça soit stable. Il faut que ça vienne de la personne même. Et Dr. Ramani aussi conseille à ses clientes, elle leur conseille de, si par exemple, votre conjoint vous dit, oui, je vais changer, vous pouvez lui dire, OK. Donc, je décide de faire un petit break et je vais te laisser changer. Donc, il faut pas se précipiter à croire que véritablement il va se changer, même si c'est vraiment tentant. C'est parce qu'en plus, il le dit très bien, il le fait très bien. Il faut toujours se dire, je vois ses actions, je ne vois pas ses paroles. Parce qu'avant tout, en premier lieu, si c'est votre conjoint, vous n'avez pas vu ses actions. Vous vous êtes concentré sur ses paroles. Voilà ce que je peux dire en tout cas sur le changement.
Alors, du coup, il y a quelque chose que tu as dit au début, sur lequel je voulais revenir, c'est que là, si je comprends bien, bah, quand on a affaire à une personne narcissique, il faut vraiment pas espérer qu'il y ait de changement. En tout cas, du moins, tant que cette personne prend pas conscience et décide de changer par elle-même. Mais au début, tu nous as dit quand même qu'il y avait un autre aspect, en tout cas, qui lui est considéré comme une maladie. Donc, c'est là que tu nous as dit, ça s'appelle le trouble de...
Trouble de la personnalité narcissique.
D'accord. Et donc ça, c'est deux choses différentes en fait.
Tu sais pourquoi c'est différent? Parce que, et c'est ça le problème que j'ai trouvé. Pour ça que j'aime pas nommer narcissique narcissique, parce que si la victime va sur Internet et qu'elle tape narcissique ou personnalité narcissique, ils vont lui donner ce que donne le manuel de psychiatrie, c'est-à-dire c'est des 9 critères et à partir de 5 critères, il est diagnostiqué. Donc moi, mon but, c'est pas de diagnostiquer ce trouble, c'est pas ma place de le faire déjà. Mais et ce que j'ai trouvé intéressant chez Dr. Amani, qui est elle spécialiste, c'est qu'elle te dit si on sait que les narcissiques ne vont pas, ne sont jamais, presque jamais diagnostiqués. Si une femme me vient et qu'elle me dit à peu près le comportement de la personne toxique et que moi, je détecte que c'est un narcissique, ou bien si elle me dit je pense qu'il est narcissique parce qu'il me fait ça, elle me dit j'ai pas le droit de lui dire non. Parce que finalement, qui c'est qui connaît le mieux cette personne derrière les portes fermées, si tu veux, c'est la victime. Il y a une différence. Même Dr. Amélie nous avait dit quelque chose de très intéressant. Elle m'a dit que je trouve que même ce trouble-là ne devrait pas être classé parmi la psychopathie et la psychiatrie parce que ça lui donnerait un aspect maladif et donc le pauvre, c'est plus fort que lui. Et là, l'esprit de la sauveuse, celle qui est sauveuse, c'est là où elle va se dire, ah, je vais pas l'abandonner quand même, c'est pas ça. Alors qu'on sait que le narcissique, c'est vraiment quelque chose qui se développe dès l'enfance. Il est conscient de ce qu'il vous fait, mais il veut pas prendre conscience de ce qu'il est lui. Et là, c'est dangereux. Parce que nous, on pense à la victime avant tout. C'est pour ça que je te dis, moi, je pense pas à lui, ni à son changement, ni je pense à la victime. Moi, ce qui m'importe, c'est la victime. C'est ce que toi, tu vis dans cette relation.
D'accord. Ouais, je comprends bien du coup ce que tu soulignes et c'est important pour pas qu'on tombe dans ce côté de bah je peux pas l'abandonner, je peux pas le laisser à son sort parce que bah il faut quelqu'un pour pouvoir l'aider. Mais quelqu'un qui est diagnostiqué du coup pour le trouble de personnalité narcissique, est-ce que lui, il est suivi et prend des médicaments qui vont l'empêcher justement d'avoir ce type de comportement ou pas?
Le trouble de personnalité narcissique, je sais qu'il y a les thérapeutes et les psychiatres, ce qu'ils font avec eux, c'est vraiment de traiter tous les autres troubles qui s'associent, c'est-à-dire vous allez avoir la dépression, des fois il va y avoir. Parce qu'on dit que le narcissisme vient, il est toujours accompagné d'un autre trouble. Donc ils vont traiter, ils vont utiliser la thérapie CBT, c'est la thérapie comportementale cognitive. J'ai pas vraiment entendu de retour sur des médicaments. Comme tu dis pour l'instant. Après, je n'ai pas ma place pour parler au nom d'un psychiatre parce qu'il n'y a que le psychiatre qui donne les médicaments, pas le thérapeute ni moi. Donc, mais je sais que c'est très difficile en fait. Même les plus grands thérapeutes et les plus grands psychiatres disent que c'est très difficile de mesurer le changement chez ces personnes parce qu'ils sont manipulateurs quand même. Côté relation thérapeute-client où il y a quand même une certaine vulnérabilité, elle est un peu compromise. Parce qu'il y a pas, tu sais pas quand est-ce qu'ils ont fait ça, ils n'ont pas fait ça. Et comme je t'ai dit, même si c'est quelqu'un, parce que généralement, ces personnes ne viennent pas de leur plein gré dire oui, vous savez, je manipule beaucoup les gens. Tu vois? C'est généralement des ordonnances du tribunal ou bien c'est des experts psychiatres qui vont faire une expertise sur des détenus, etc., ou bien sur des accusés. Tu vois, donc c'est un peu complexe, ces relations-là, c'est un peu complexe, subhanallah. C'est pour ça que je te dis que la meilleure façon, vraiment, c'est de entrer en non-contact, c'est-à-dire de couper les ponts et de se reconstruire. Mais puisque ce n'est pas aussi évident que ça, il faut apprendre à créer une bulle autour de soi, une coquille autour de soi, pour pouvoir naviguer avec. Parce que tu navigues, c'est comme si tu étais dans des eaux troubles, tu vois. Tu navigues chaque fois avec lui. C'est une relation très conflictuelle, très, très conflictuelle.
Donc vaut mieux voilà, vaut mieux s'en éloigner et puis pas essayer de trouver un remède pour cette personne, penser à soi d'abord et reprendre sa vie en main plutôt que voilà, d'essayer de repartir vers bah, le côté sauveuse en fait ou sauveur de ce type de personne.
Mais oui, il n'y a pas, y a pas d'autre solution jusqu'à maintenant. On n'a pas trouvé d'autre solution. J'aurais aimé vous donner une note positive à la fin, vous dire que c'est possible de changer, de prier pour lui, etc. Bon, priez pour lui si vous voulez, bien sûr. Mais je suis vraiment contre et je vous conseille de vraiment vous recentrer sur vous-même. De toute façon, une personne saine, c'est une personne qui va vous aimer entière. Si vous rentrez dans une relation avec des blessures non guéries, cette relation risque de ne pas marcher avec une personne saine. La personne saine ne veut pas toute cette quantité de rage, d'angoisse, de peur, de culpabilité. C'est pas intéressant. Donc, reconstruisez-vous, prenez soin de vous, parce que beaucoup de personnes comprennent l'islam comme une religion qui vous demande de vous laisser. Pour les autres, c'est faux. Vous allez être questionné sur vous-même. Donc, très important, prenez soin de vous physiquement, mentalement. Après, quand vous allez être plus forte, ça va déjà vous donner si vous êtes maman, ça va donner à vos enfants l'exemple d'une mère forte, d'une mère saine d'esprit et de corps. Donc, c'est très important pour eux. Dans tous les cas que j'ai eus, dès que la personne se reconstruit, vous n'allez jamais vouloir re repartir dans la relation.
Non, non, parce qu'il y a cette prise de conscience et puis on voit très bien le bien-être qu'on a développé, qui est complètement différent que lorsqu'on était dans cette relation, hein, tout simplement. Et...
Effectivement. Ouais. Et la reconstruction, encore une fois, le deuil et la reconstruction, c'est des processus, ce n'est pas des destinations. Je suis désolée de vous donner toujours cet exemple, mais c'est un exemple très concret scientifiquement. C'est comme quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui, vous savez, qui est dans le processus, comment on appelle ça? J'ai perdu le mot là, ou les centres de réhabilitation. Quand tu lui enlèves la drogue, il peut tenir le coup pendant un, deux, quelques mois, pendant presque une année, retomber. Donc, on n'est pas dans le jugement, encore une fois. C'est normal, vous allez retomber, comme j'ai dit, et Inch'Allah, vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie. Donc, il ne faut pas voir ça comme un échec cuisant, mais plutôt comme un processus. Et comme tout processus, vous voyez, c'est vous apprenez par les erreurs. C'est tout.
Bah, en tout cas, super. Merci beaucoup, hein, franchement, pour ton temps, pour toutes ces réponses bien détaillées, en tout cas, parce qu'il y a pas mal, il y a pas mal d'informations, mashallah. Et je trouve que bah, voilà, tu as été très professionnelle dans le sens où tu vois, tu nous donnes les infos, mais tu es restée quand même, comme tu dis, à ta place. Et ça permet aussi de, bah, tu vois, de pas se faire des idées, de pas, tu vois, de ne pas nous donner des infos qu'on va garder en tête, mais qui seront peut-être, on se rendra compte que bah, ce n'est pas les bonnes infos, c'est erroné et que ça ne nous correspond pas forcément. Donc, pour ça, vraiment, bravo, parce que tu as su faire la part des choses dans tes réponses. Et je trouve que bah, tu nous as, voilà, tu nous as vraiment gâtés en information, en tout cas pour ce sujet. Inch'Allah, bah, si jamais des personnes, en tout cas, qui écoutent nos sisters, qui vont écouter ce podcast, si elles sont confrontées à cette situation, bah, que peut-être elles vont pouvoir avoir un déclic, en tout cas, ou si elles sont témoins de ce genre de situation aussi, parce qu'on peut ne pas le vivre, mais on peut voir d'autres personnes de notre entourage vivre, bah, au moins elles sauront comment réagir, elles sauront comment aider au mieux, en tout cas, la personne victime de ça. Donc vraiment pour ça, vraiment un merci, parce que c'est important, c'est un sujet que je trouve qu'on n'aborde pas énormément dans notre communauté, qu'on va essayer tendance même à cacher, à camoufler, parce qu'il y a la honte, parce que voilà, on n'en parle pas, surtout quand ça touche la famille, les parents, les frères et sœurs, etc. Ça devient vraiment le truc qu'on ne peut pas exposer, et donc c'est difficile de, bah, de le gérer et de pouvoir s'en sortir quand on est dans ce genre de relation. Là, tu as donné beaucoup d'exemples de vie conjugale aussi, et ça, c'est très bien parce que c'est, je pense que c'est ce qu'on voit le plus souvent. Et en tant que personne externe, c'est très difficile de se mêler de la vie conjugale d'un couple, de vouloir intervenir parce que bah, on se dit aujourd'hui je vais parler et puis bah, demain je vais les revoir main dans la main et finalement c'est moi qui va me sentir bête parce que j'ai voulu, tu vois. Et ça, comme on voit dans une relation, comment tu l'as expliqué, en tout cas dans une relation toxique, bah, souvent c'est ça, la personne va ne pas être bien, elle va venir avec se confier à nous, on va vouloir l'aider, la conseiller, et puis le lendemain on les revoit ensemble, tout va bien, et ben on se sent un peu bête. Donc au moins le fait d'avoir conscience de ça, eh ben, on sait que ça fait partie du processus et c'est pas pour autant qu'on va abandonner la personne. On va se dire, voilà, c'est des choses que je sais déjà, ça va arriver. Donc, moi, je vais être là quand elle va vouloir revenir et je vais pas me dire, bah non, je la laisse tomber, elle se débrouille avec ses problèmes parce que quand je lui parle, elle n'écoute pas. Par exemple, je pense que ça, c'est des réactions qu'on a beaucoup en tant que témoin. On se dit, bah tant pis pour elle, qu'elle se débrouille. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que. Bah, c'est une victime et qu'il y a tout un processus. Et vraiment pour ça, merci d'avoir insisté parce que moi-même, c'est vrai que des fois, je vois des choses et je me dis, tu vois, même si c'est pas méchant, mais tu te dis, bon, c'est elle qui l'a cherché, quoi, parce qu'on lui dit, elle n'écoute pas, bon, bah, tu vois, elle tire pas des leçons du passé ou ce genre de choses, alors qu'en fait, c'est un engrenage, quoi, tout simplement. Franchement, pour ça, barakallahu fiki, donc vraiment, je pense que ça va être très, très utile pour nos sœurs, victimes ou non, mais en tout cas, et puis même pour celles qui ne sont pas dans ça et qui n'ont pas forcément des personnes qui le sont, mais le fait d'avoir ces infos, ça va leur permettre de repérer une personne toxique aussi et finalement se prémunir de rentrer dans ce genre de relation aussi. Donc là, tu nous as permis de, tu vois, de pouvoir gérer peut-être trois différents types de crises. Mashallah. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci pour ton temps. Surtout que ça a été compliqué de pouvoir tourner ce podcast à cause du décalage horaire et puis bah, de nos activités respectives. Donc, vraiment, vraiment, barakallahu fiki, qu'Allah te récompense.
Inch'Allah, merci beaucoup, c'est très gentil.
Et qui te permette bah, d'être vraiment une cause pour les femmes, une cause de réussite et de survie pour les femmes qui vivent ce genre de situation ou d'autres personnes, hein, tout simplement.
Inch'Allah, merci beaucoup. Merci à
Et
toi de m'avoir reçu.
Non, ben non, c'est vraiment avec plaisir. En tout cas, ouais, vraiment avec plaisir. Et puis, bah, j'ai hâte de partager ça parce qu'il faut vraiment que je sais que ce sera utile pour beaucoup de personnes. Et voilà.
Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci de m'avoir supporté aussi.
Oh, non, c'était avec plaisir. Franchement, machallah, c'était avec plaisir. Donc,
Alhamdoulillah.
voilà, ben, on se dit à très bientôt. Et voilà, ma sweet sister, notre deuxième épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il te sera utile. Si tu es dans une relation toxique, alors je te souhaite d'avoir le déclic qui te permettra de vouloir en sortir en demandant une aide extérieure. Si tu es témoin d'une relation toxique, alors je te souhaite de pouvoir appliquer les conseils de Majda pour aider au mieux la personne concernée. Si aucune de ces situations ne te parle, je te souhaite quand même de pouvoir te prémunir de ce genre de relation et que tu puisses repérer de loin une personne toxique, sans toutefois, attention, être dans la paranoïa. Et il ne faut surtout pas mettre tout le monde dans le même sac juste parce que nous n'avons pas cette compatibilité en termes de valeurs, de mindset, de vision de vie, et j'en passe. Donc ça, c'était un point essentiel aussi à mettre en avant, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre une personne toxique et une personne qui ne nous correspond pas. Donc voilà. Et comme d'habitude, pour remercier comme il se doit notre sister Majda qui a pris de son temps pour nous donner autant d'informations, je te demanderai de nous laisser un avis ou de nous noter. Et surtout, surtout, de partager l'épisode pour qu'il puisse être profitable à un grand nombre de sisters. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.